Alors, on va essayer ce soir de traiter ensemble ce sujet. Finalement, je pense qu'il est plus large que ce que je croyais. Est-ce que tout le monde entend bien avec le micro là? Oui. Alors, vous savez que la paracha, justement, qu'on est en train de vivre, c'est la paracha de Aharemot, et qui annonce dès le début qu'en fait, on rappelle la mort des deux enfants de Aaron. Ces deux enfants qui sont morts dans des circonstances un petit peu spéciales, puisque c'était le jour de l'inauguration du tabernacle qu'on venait à peine de construire. Et voilà que maintenant on est en pleine joie, en pleine allégresse de cette construction, de l'inauguration. Et voilà que les enfants de Aaron, alors ils font quelque chose, ils vont là-bas, ils amènent une mincha et ils amènent un feu étranger, comme dit le passouk. Et à ce moment-là, il y a un feu qui descend du ciel et qui les tue. Et voilà que d'une grande joie, on passe à une grande tristesse. En pleine inauguration, il faut essayer de s'imaginer à quoi ça correspond. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Alors, le Midrash et la Gemara et le Zohar essayent de s'interroger pour savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour arriver à une situation pareille? Et elles trouvent la contradiction entre le fait que les enfants de Aaron ont fait plusieurs fautes et d'un autre côté, le fait qu'ils étaient à un niveau extrêmement élevé. Pourquoi? Par exemple, c'est marqué Bekrové et Kadesh que Moshe Rabbeinu, il dit le Midrash, il savait très bien que il allait arriver un événement, il allait arriver un malheur. Et il s'écrit dans le passage que Akhshbourou, il est sanctifié par les gens qui lui sont proches. C'est pas n'importe quel niveau qui peut sanctifier le nom d'Hachem dans le monde. Et lui, sincèrement, il pensait que ça allait être Aaron et lui-même qui allait être pris par le ciel et qui allait mourir. Parce qu'il sentait qu'il allait avoir un grand événement, mais en même temps qu'il allait avoir une grande tristesse. Et qui est-ce qui est mort? C'est les deux enfants, Nadav Avihu, les deux enfants de Aaron. Quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu s'est rendu compte, il dit le Midrash, qu'en fin de compte, Nadav Avihu était plus grand que Moshe et Aaron. C'est quelque chose d'incroyable. D'un autre côté, c'est marqué ils sont morts prématurément, du fait même des fautes qu'ils ont accomplies ce jour-là. Quelles fautes ils ont accomplies ce jour-là? Parce que, par exemple, ils avaient bu du vin. Et à quoi il n'a pas le droit de boire du vin quand il doit servir dans le temple? Ils avaient bu du vin. Bien que la loi de l'interdit de boire du vin n'était pas encore enseignée. Deuxièmement, parce qu'ils ont amené un feu étranger, c'est-à-dire que après, plus tard, la halakha va être aussi enseignée qu'on peut amener un feu étranger pour allumer pour une mincha ou pour allumer le mizbéach, l'autel, mais la loi n'avait pas encore enseignée et eux, ils ont voulu l'amener de même. Troisièmement, ils ont amené un sacrifice qu'on leur avait pas demandé, qui était supplémentaire. Bon. Ils étaient mechoussar b'gadim, c'est-à-dire il leur manquait des vêtements. Vous savez que le Kohen Gadol, le grand prêtre, quand il doit rentrer dans le temple pour faire certains types de sacrifices, il doit être habillé avec certains vêtements. Ils n'avaient pas ces vêtements-là. Bon, il y a toute une série d'enseignements aussi parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'étaient pas mariés. Ils étaient célibataires. Bon, je vous dis toute une série de raisons qui sont données par le Midrash. Et tous les points communs qui existent entre ces raisons-là, c'est le fait même qu'il y a eu un manque de crainte, qu'il y a eu un manque de conscience de ce qui est en train de se passer. Alors attention, il faut toujours mettre entre guillemets quand on parle de grands personnages comme les enfants de Aaron. Oui, quand on dit manque de crainte, ça veut pas dire qu'ils manquent de crainte qu'ils vont faire des grosses bêtises. Bon. Il s'agit de très haut niveau de grande finesse et qui sont appliqués ici avec une précision atomique. Parce qu'il manquait quelque chose qui est défini comme la crainte, mais on va voir à quel niveau ça se situe. Le Ramban, lui, il va encore un petit peu plus loin, il dit Bimkom litkaven beshem ameyuchad lerachamim kivnu leshem midatadin. Ça veut dire, lui, il dit carrément, c'est pas un problème de geste, c'est même pas un problème d'attitude, c'est juste un problème de kavana. Ça veut dire qu'au moment où ils ont amené ce sacrifice, normalement, ils auraient dû avoir la pensée par rapport au nom de Dieu qui est lié à la miséricorde, et ils ont eu la pensée par rapport au nom de Dieu qui est la rigueur. Et pour ça, ils sont morts. Ils ne sont pas morts d'une mort habituelle. Il y a un feu qui est descendu, mais qui les a brûlés intérieurement. Et le corps était intact. Et le Ramban, il dit, c'est ça, Zénikré Esh Zara, c'est ça qui écrit étranger, un feu étranger. C'est quoi ce feu étranger en vérité? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient amené ou non un feu. C'est le fait beaucoup plus profond qu'ils aient employé un nom de Dieu dans la Kavana qui n'était pas adaptée. Si on a du mal à comprendre. Mais le Ricanti, lui, donne encore une autre explication. Il dit pourquoi? Chasru ira keshenichnesu la kodesh. Ils ont manqué de crainte au moment où ils sont rentrés dans le sanctuaire. Mais d'un autre côté, il explique le Rav Dessler. Il dit la raison pour laquelle eux, ils ont fait ça, parce que ce n'est pas des fous. Ils ont appris, ils ont compris, c'est les enfants de Aaron. Leur oncle, c'est Moshe Rabbeinu, il faut quand même se rendre compte. Il dit pourquoi ils ont fait ça, il dit Rav Dessler. Ils ont fait ça par amour d'Hachem. Ils ont fait ça par amour. Je ne comprends pas. Et comment est-ce que quelqu'un il peut avoir un tellement grand amour? Et cet amour-là, c'est une recherche de proximité, de lien avec Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, de faire des bêtises aussi graves. C'est-à-dire quoi? Vous savez, on dit l'amour est aveugle. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est amoureux, alors il fait des erreurs. Un excès d'amour, c'est dangereux. Alors cette référence qu'on va trouver, nous, dans la définition de l'amour qu'on va avoir par rapport à cette action de Nadav Aviou, on va définir l'élément en soi comment à quoi il correspond, parce qu'encore une fois, c'était un désir de proximité qui les a poussés, un désir de faire cette mitzvah-là. Ils étaient tellement pris dans cette joie-là de la journée de l'inauguration du temple, ils ont voulu aussi participer à cette joie. Tu dis, mais cette joie-là, elle est réservée, puisqu'il y a un Kohen Gadol qui doit amener un seul sacrifice, et eux, ils sont venus à deux, alors qu'on avait déjà fait un sacrifice. Est-ce que par amour, on peut faire n'importe quoi? Pourtant, il faut avoir aucun doute là-dessus. Ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont atteint, c'est un niveau extraordinaire. Mais, il dit le Rikanti, il y avait un chisaron de ira, il y avait un manque de crainte, et cette crainte-là, elle a cassé le système. Alors nous, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne cette nécessité de crainte et cette nécessité d'amour, et comment est-ce que ça peut marcher l'équilibre entre les deux. Alors pour ça, j'ai été voir un petit peu des références un peu partout. Il y a une référence d'abord qu'il faut avoir en tête, qui est enseignée par le Rambam Maïmonide, et qui ramène toujours ce principe, bien que c'est un principe qui est connu. Il dit le Rambam qu'un homme, il doit toujours s'éloigner des extrêmes. Et il doit rechercher perpétuellement, derech Abenoni, le chemin du milieu. C'est vrai que c'est une phrase qui est connue, c'est vrai que c'est une phrase qui est compréhensible, puisque c'est en réalité le principe de l'équilibre. Mais d'un autre côté, si quelqu'un vraiment est honnête avec lui-même et qu'il regarde autour de lui, il regarde à l'intérieur de lui, le plus dur à atteindre, c'est l'équilibre. C'est très facile d'être extrémiste dans n'importe quoi. Très facile. Extrémiste, ça ne veut pas dire ultra-orthodoxe. Oui. Extrémiste, ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui va être trop bon, jusqu'à l'autodestruction. Quelqu'un qui va être très méchant, très dur, très carré, très coincé. Oui, jusqu'à l'autodestruction. C'est très dur. Donc c'est facile d'être extrême. Ce qui est difficile, c'est l'équilibre. Puisque l'équilibre, c'est une recherche qui est perpétuelle. C'est un combat qui est perpétuel. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois cet exemple, même à Toulouse, je pense, c'est l'exemple de la marche. Regardez l'exemple de la marche. C'est pour les scientifiques, la marche, c'est quelque chose d'abominable à comprendre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous créez un mouvement, vous créez un déséquilibre. Et quand vous regardez le corps humain, si vous le regardez pour sa taille de 1m80, bon, il n'y a rien de gênant. Mais si vous le regardez à la taille d'une fourmi, avec tous les éléments qu'il faut pour arriver à marcher droit, que ce soit le poids, que ce soit l'équilibre du poids, des muscles, des tendons, l'équilibre spatial, l'orientation, l'équilibre mental qui intervient dans la marche. Il y a des milliers d'éléments qui interviennent dans la marche simplement pour déplacer un corps. C'est comme si vous prenez une pyramide de boîtes de conserve de 72 mètres de haut et que vous la baladez comme ça dans la rue. Vous avez vu un petit peu les calculs qu'il faut faire pour que ça tienne debout? Eh ben, un corps pour marcher droit, c'est exactement le même principe. Et pourtant, on y arrive tous les jours. Il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais c'est faux, parce que quand tu lèves un pied, déjà, tu crains un déséquilibre. Et quand tu lèves le deuxième, tu crains un déséquilibre. Et pourtant, la marche, c'est une recherche d'équilibre. Et tu marches droit. Alors, rappelez-vous que l'exemple physique, il a été créé pour qu'on comprenne l'exemple spirituel. Parce que au fond, ce sont des notions qui sont très difficiles. Très difficiles. Dans leur accessibilité et même dans leur perception intellectuelle. Ça s'appelle l'équilibre. Alors, venez, on va essayer de comprendre cette notion-là. Deuxième notion, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé un système qui est basé sur l'amour et sur la crainte. Parce que vous savez que dans la Torah, il y a deux types de mitzvot qui n'ont rien à voir. Il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. La Torah, elle te dit 248 fois, la Torah, elle te dit « fais ceci ». Ça s'appelle les mitzvot positives. Et 365 fois, la Torah te dit « ne fais pas ceci ». Ça s'appelle les mitzvot négatives. Alors, les commentateurs demandent « mais pourquoi est-ce qu'on a besoin à la fois de mitzvot positives et de mitzvot négatives ?» Tu aurais dû mettre que des mitzvot positives. Il y a des religions, par exemple, où il n'y a que des mitzvot positives. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Pas positif dans le sens bon ou joli. Fais ça, des actes à faire. Il y a des lois, il y a des systèmes où il n'y a que des lois négatives. D'accord? Par exemple, la démocratie, c'est un système où il n'y a que des lois négatives. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On te dicte dans le code ce que tu n'as pas le droit de faire. Mais il n'y a pas un code de ce que tu dois faire. Si tu fais quelque chose qu'on t'a pas demandé, c'est une médaille du mérite. D'accord? Mais tu n'es dans la loi profane, tu n'es pas récompensé pour le bien que tu fais. On ne t'ordonne pas de faire le bien. Si tu le fais, c'est bien, mais on ne te l'ordonne pas. Et si tu ne fais pas du mal, on ne te récompense pas. Par exemple, si quelqu'un il vient et dit, voilà, ça fait 20 ans, j'ai pas attaqué une petite vieille. Depuis 20 ans, je n'ai pas attaqué une petite vieille. Pourtant, j'ai fait la queue à la poste, j'ai vu qu'elle prenait 15 000 francs, j'ai vu qu'elle pesait 25 kilos, j'ai eu le Yetzer Hara. En plus, il y a des rues sombres, c'était facile. Je lui aurais demandé leur mamie et je serais parti avec le sac. Pendant 20 ans, je me suis tenu de faire l'andru. On va lui donner une médaille à celui-là. Ne pas faire le mal, ça n'a aucune valeur dans le monde profane. Faire le bien, c'est pas une obligation. C'est un plus. Genre, t'es secouriste, t'es scout, c'est bien. T'es bien. T'as l'esprit de camaraderie, t'as la solidarité, c'est bien. Mais c'est pas obligatoire. Avant, il y avait l'esprit civique, le citoyen. Non, maintenant, non. Tu casses rien, tu détruis rien, c'est bien, c'est déjà pas mal. Allez, rentre chez toi. La Torah, non seulement elle t'oblige à faire du bien, et elle t'interdit de faire du mal, mais elle te récompense quand tu fais du bien, et elle te récompense quand tu fais pas du mal. Mais si quelqu'un va dire, mais quand j'ai pas fait de mal, j'ai rien fait, tu me récompenses pourquoi? Mais t'as fait un effort, ça te coûte. Ça coûte de pas faire du mal, t'as envie. Tu vois comme ça, le steak au beurre, tu le vois devant toi. Tu vois le beurre qui fond sur le steak. C'est pas un effort, ça? Ouais. Tu vas au restaurant, il t'amène une assiette avec deux tranches de jambon, il dit, offert par la maison. C'est pas haram de les jeter? Ça te fait mal au cœur, non? Tu dis, je touche pas. Ça te coûte? Je touche pas. Quelqu'un, il vient chez toi, il te dit, toi qui es blanchisseur, tu pourrais pas prendre un peu d'argent de la drogue? Pas une Yetzer Hara, ça? Hein? 10 millions de francs pour 1 million. C'est pas cher. Qui c'est qui veut? Je dis non, je touche pas à ça. T'es pas récompensé pour ça. Par contre, si tu blanchis l'argent, tu vas en prison. Mais si tu blanchis pas, t'as pas de médaille. Sauf si t'es ministre, c'est autre chose. Ouais. Vous comprenez ça? C'est comme ça. C'est bizarre. La Torah, elle te demande de faire du bien et de ne pas faire du mal. Alors, il dit le Ramban, les mitzvot assez, les mitzvot positives, ça amène l'amour de Dieu. Les mitzvot négatives, ça amène la crainte de Dieu. Rappelez-vous de ça. Troisième élément, vous savez que notre corps, il est fait sur une structure qui est exactement la même structure que la Torah. De la même manière que dans la Torah, il y a 248 mitzvot positives, donc des actes positifs à faire, de la même manière, il y a 248 membres. Et chaque membre, il est nourri par une mitzvah positive. Puisque vous savez que l'âme, elle est faite sur la même structure que le corps. Donc mon âme, elle contient 248 membres et 365 nerfs et artères. Comme mon corps contient 248 membres et 365 nerfs et artères. Et le monde, pour me déplacer à l'intérieur, j'ai eu 248 actes positifs à faire et 365 actes négatifs à ne pas faire. Donc j'ai 365 fois fait attention et 248 fois fait. Et la Torah, elle a été créée sur le modèle de la Torah. Le monde, il a été créé sur le modèle de la Torah. Donc l'homme spirituel, l'homme physique et le monde physique sont construits sur le mode de la Torah. Et moi, maintenant, je vais me déplacer à l'intérieur, tout ça sur un seul mode. Et là-dedans, on m'a donné deux priorités. Une priorité crainte, une priorité amour. Donc on voit que déjà que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large que simplement une notion qui serait une notion, disons, sociale, d'accord, de proximité avec l'autre, d'ouverture, de sincérité, d'honnêteté. C'est plus profond. C'est plus profond. Parce qu'il faut aller chercher à l'essence de l'être et comprendre que l'essence de l'être a besoin de cet acte physique qui contient lui-même une essence, qui est de nature positive et qui va nourrir mon positif. Et aussi des actes négatifs, dans la lutte que je vais faire contre le négatif, qui vont nourrir chez moi un certain appétit négatif. Et les deux sont ensemble. Et c'est vrai qu'au fond, chacun d'entre nous, il comprend que de la même manière que de faire un acte positif, ça fait plaisir. Par exemple, t'as aidé quelqu'un à déménager, ça te fait plaisir. De la même manière, tu t'es retenu de faire une crasse à quelqu'un, eh ben, tu es quand même content. Par exemple, tu pourrais planter quelqu'un, il te dit merci. Parce qu'il a vu que tu pouvais le planter, tu ne l'as pas planté. Eh ben, ça te fait quelque chose. Donc, au fond, on a la reconnaissance du bien comme on a la reconnaissance du non-mal. Or, si on en a besoin, c'est que ça fait partie de nous. C'est comme les gens qui te disent moi, de toute façon, j'arrive très bien à me passer du relationnel, j'arrive à me passer de la résonance de l'autre, j'arrive à me passer de l'émotionnel. C'est impossible. C'est impossible. De la même manière qu'on a besoin d'intellectuel, on a besoin d'émotionnel. C'est impossible. Si tu vois que quelqu'un y fait la tête, c'est qu'il ressource ailleurs. Ça n'existe pas. On ne peut pas vivre éternellement avec une carapace. Ah, il y a beaucoup de gens, pour se protéger des déceptions émotionnelles, ils fabriquent une carapace parce qu'ils ont l'impression que s'ils s'ouvrent, ils vont encore prendre sur la tête, ils vont encore être déçus. Mais on ne peut pas. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un dit, comme les enfants qui disent « Moi, je ne mange pas parce que je n'aime pas. » Mais tu n'as pas goûté. Il dit « Oui, mais il a tellement peur d'être déçu, il ne veut pas goûter. » Ben, c'est pareil. Il y a des gens qui ne veulent pas goûter au bonheur parce que des fois, le bonheur il leur a coûté tellement qu'ils ne veulent plus y goûter de peur d'être déçus à nouveau. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se nourrir sans manger. Il faut manger, mon frère. Il faut manger. Ah, des fois, c'est amer, des fois, c'est pas amer. Il faut manger. Il n'y a rien à faire. De la même manière qu'il faut manger, de la même manière il faut agir, de la même manière il faut se réaliser, de la même manière il faut rentrer en contact avec l'autre. L'autre, c'est la source du bonheur. C'est la source du malheur. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ce qui se passe. Ah, c'est parfois la source du malheur. Vous savez comment ça s'appelle ça en français? Une alternative. Vous savez qui c'est les gens malheureux? C'est les gens qui ne s'attendaient pas à ce que l'autre leur dise non. C'est des gens malheureux. Les gens heureux, c'est les gens qui savent que l'autre a le droit de dire non et qui savent que même s'il dit non, ils accepteront quand même l'autre. Vous comprenez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend. Je pense qu'on commence à l'apprendre au CP. Je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui ont dépassé le CP. Au CP, on apprend que 1 plus 1 égale 2. C'est simple. 1 plus 1 égale 2. Eh bien, ça prend des années à comprendre que l'autre et moi, ça fait 2. Et comme je n'ai pas envie que ça fasse 2, donc je considère que l'autre, il fait 1 avec moi. Donc, s'il me dit non, il m'a déçu. Mais il ne m'a pas déçu, il est lui-même. Il a simplement appliqué la loi du pluriel. C'est une loi qui existe depuis que les maths existent. Que 1 plus 1 égale 2. Donc quand je m'adresse à quelqu'un, j'ai une chance sur deux. Ou il va me dire oui, ou il va me dire non. S'il me dit oui, il a le droit de le faire. S'il me dit non, il a le droit de le faire. Maintenant, s'il m'a dit non, pourquoi je suis déçu? Mais je m'attendais bien. Et là, moi, je ne m'attendais pas. Donc moi, je croyais que 1 plus 1 égale 1. Mais mon fils, c'est CP ça. CP. T'as pas compris encore? CP. Tu dis, mais 1 plus 1, l'amour, l'unité, l'harmonie. Faut travailler, mon frère. Ça, faut travailler, faut construire. C'est pas si. Hop! Quand les gens ils croient que l'amour, c'est comme à la télé, tu zappes, tac, t'es heureux. Il y en a qui s'étonnent d'avoir réussi à séduire Claudia Schiffer. C'est vrai, parce que dans l'écran, comme elle regarde en face d'eux, donc eux, ils sont sûrs que c'est à eux qu'elle parle. Alors, il regarde, Claudia dit, je t'aime. Moi? Oui? Écoute, Marlouf, tu te calmes. Tu t'assois. Oui. D'abord, tu es marié. Oui. Tu arrêtes un peu. Les gens, ils s'envolent. Ils croient que eux et eux, ça fait un. Un et un, ça fait deux. Si tu travailles, tu construis, tu fais des sacrifices, tu as des choses communes, tu construis un monde commun, tu fais un. Ça va. Mais ça prend du temps. Mais a priori, dans la vie, on fait deux. Celui qui n'est pas habitué va être malheureux. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses avec qui on fait deux. Hein. Toi et tes rêves, tu fais deux. Toi et tes ambitions, ça fait deux. Toi et l'argent, souvent ça fait deux. Toi et ton patron, ça fait deux. Toi et le mur, t'as essayé de traverser un mur, essaie de faire un avec un mur, tu vas voir. Ça fait deux. Toi et l'intelligence, ça fait huit. D'accord. Donc, tu vois que c'est pas facile de faire un avec les choses. Et ce principe-là, c'est un principe en vérité d'amour. Parce que amour, Ahava, c'est Ehad. C'est la même valeur numérique. C'est 13. 13. Ahava, Ehad, 13. Ça veut dire que l'amour, ça veut dire l'unité. Et c'est vrai que l'élan d'amour, c'est un élan dans une recherche d'unité. Et c'est nécessaire. La crainte, au contraire, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est le complémentaire. C'est la recherche de structure. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Torah, elle a pensé qu'on avait besoin d'amour et qu'on avait besoin de crainte. Dans la relation avec Hachem, dans la relation avec l'autre, dans la relation avec soi-même. On a besoin de toujours du même pôle, des deux mêmes pôles d'équilibre, tout le temps. Et à chaque fois que vous trouverez que quelqu'un a échappé à un des deux pôles, il est déséquilibré. C'est comme ça. Il n'existe pas. Dans n'importe quoi. N'importe quoi. Vous comprenez? Même quelqu'un, il n'est pas religieux du tout. Mais son pôle émotionnel et son pôle intellectuel, ils ne sont pas en équilibre. Il est dead. C'est comme ça. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'essence de l'être. Seulement, la Torah, elle te donne un mode de déplacement à l'intérieur de l'essence. Mais c'est pas parce que tu n'es pas d'accord que tu ne fais pas partie de l'essence. Vous comprenez? C'est comme si un type, il dit, je ne suis pas d'accord avec la théorie des chromosomes. Bon, il a quand même des chromosomes. Il dit, mais je ne suis pas d'accord! Mais vous en avez! C'est comme ça. Quand il éternue, je suis contre la maladie. Ben, t'as un virus. Tu n'es pas d'accord que les fautes amènent la maladie. Et pourtant, on le dit en hébreu, averos. Un virus. Ici, c'est pareil. Alors maintenant, si on comprend ça, regardez ce qui est marqué dans l'Yerushalmi, dans Brachot au Perek Tet. Asemiava, sheim batalisno, enaoef soné. C'est effroyable ce qui est marqué dans cette phrase. C'est marqué, fais les actes, fais les mitzvot par amour, parce que si tu en viens à haïr, celui qui aime ne haït pas. Attention. Asemira, fais par crainte, sheim batalivrot, enaïre boet. Fais par crainte, dit le Talmud de Jérusalem. Parce que si tu en viens à te révolter, celui qui a la crainte ne se révolte pas. Qu'est-ce qui est marqué ici? Attendez, le Midrash, oui, il parle à des gens qui ont la barbe, qui ont appris toute la Torah. Hein. Et ce qui est marqué? C'est marqué celui fait par amour, parce que si tu en viens à haïr, celui qui l'aime, il n'haït pas. Quand vous croyez que quelqu'un, il peut en arriver à haïr Dieu, c'est marqué là. Fais par amour, parce que tu peux arriver à la haine. Fais par crainte, parce que tu peux arriver à la révolte. Comment ça marche? Ça veut dire que ce qui est marqué ici, c'est très simple. C'est que l'amour sans la crainte, ça mène à la rébellion. Et la crainte sans l'amour, la dépression. C'est marqué, c'est clair. La haine. Tu mets la crainte sur quelqu'un. Donc c'est quoi la crainte? Structure, hyperstructure, structure, hyperstructure, structure, hyperstructure. La haine. La haine, tu lui apprends. Tu mets l'amour. Allez, l'amour, 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 la générosité, l'ouverture, l'ouverture, la générosité, l'ouverture, la générosité, l'ouverture, la rébellion. Comprenez ça ou non? Exactement pareil qu'avec ton employé. Si t'es trop cool, il arrive à 11h du matin, au bout de la troisième semaine que tu l'as employé. Il te dit dans une semaine, attention le chèque. Attends, tu l'emploies le premier du mois. Tu l'as jamais vu de ta vie. Hein. Il signe. Il vient trois semaines après le premier jour. À 11h du matin, il te dit attention dans une semaine le chèque. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends un fusil à pompe. Tu vas faire. On va commencer par tirer les choses au clair. Ouais, c'est pas possible. Il est fou quoi. Pas trop de familiarité avec les employés. Attention. Bon. Pas trop non plus la pression. Ouais, vous avez vu l'heure qu'il est là? Le chiffre. Vous avez obligé de brancher votre compteur de résultats. Vous en êtes. Vous avez une caméra qui est branchée hein, tout le temps. Il y a un micro là. Vous avez enlevé votre beeper quand vous êtes aux toilettes. Imagine une usine comme ça. Tu deviens fou. Trop de crainte, tu deviens fou. D'accord? Trop d'amour, trop à l'aise. Arrêtez tout le temps un équilibre perpétuel entre le patron et le copain. Pas trop copain, pas trop patron. Comment tu fais? Et dans tout, c'est comme ça. Un enfant, il a besoin d'un père. Il a besoin d'un père. Il a besoin d'un père. Il a besoin aussi d'un frère. Alors, il faut être proche. Il faut être loin. Il faut être dur. Si t'as bien fait ton rôle de père, t'as du mal à être copain. Si tu fais ton rôle de copain, t'as du mal à être père. Par exemple, un grand-père peut pas être père. Parce qu'un grand-père, il est trop cool. Il laisse passer. Le père, il laisse pas passer. Tu dis, mais si tu avais de l'expérience, tu aurais un peu de recul. Il dit, oui, mais si j'avais du recul, je serais pas spontané. Halet. Parce que le grand-père, il dit, allez, laisse-le, je t'en prie, allez, laisse-le, ça va, pas le saouler, non? Genre, il a l'expérience maintenant, le grand-père, c'est vrai, il a le recul. Mais le recul, c'est un avantage pour réfléchir, mais c'est un désavantage pour agir. C'est comme ça. Donc, il faut être père à un certain âge et grand-père à un autre âge. Et l'enfant, il a besoin d'un père et d'un copain. Alors, comment tu veux faire? Exactement le même principe, encore une fois, c'est que une reproduction du même schéma. La crainte et l'amour, la crainte et l'amour. Ici, c'est marqué clairement. Si la Torah a donné l'amour, c'est très très bien, mais c'est dangereux. Parce que ça amène à la rébellion. Parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est que je m'investis vers l'autre. Donc, je suis en attente de réponse. Si l'autre, il répond pas, je deviens fou. Vous savez ce que c'est un meurtrier? C'est un amoureux blessé. Pourquoi la haine et l'amour, c'est sur la même, c'est la même chose. C'est juste la face qui change. C'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme investissement qui n'a pas trouvé la réponse. C'est dangereux. Les trois quarts des gens qui ont la haine, c'est des frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en attente d'une réponse qu'ils n'ont pas trouvée. Malheureusement, au départ, il y avait un petit réglage technique qui était raté. C'est que c'était l'alternative. Ils ne savaient pas que l'autre, il avait le choix. D'accord? Mais l'autre, il ne me rend pas l'amour que je lui donne, je suis prêt à le tuer. Pourquoi? Parce que moi, pour aimer, il a fallu que j'existe, il a fallu que je m'investisse. J'ai fait un effort énorme sur moi-même. Et toi, tu me dis non. Pourquoi est-ce que quelqu'un, par exemple, qui déclare son amour et que l'autre, il s'en fout, il peut se tuer? Pourquoi? Vous avez jamais demandé? C'est une question intéressante, non? L'autre, il s'est suicidé parce qu'il a déclaré son amour et l'autre en face, il a fait « Ouais, mais enfin, bon, t'as vu ton nez. » Et néanmoins peut-être. D'accord? C'est pas possible. C'est très simple. L'amour, c'est un effort d'existence. Donc, quelqu'un, a priori, il est enfermé à l'intérieur de lui. Le monde, il a été créé pour que tu te réalises. Mais c'est difficile de se réaliser parce qu'on a des parois qui bougent. Parois psychologiques, parois physiques, parois mentales, parois culturelles. On a des plein de parois qui nous empêchent d'exister. Maintenant, quelqu'un, il a tellement envie, il a tellement besoin de cette proximité avec l'autre, il fait un effort, il déchire toutes les parois et il s'extériorise à 100%. Mais en s'extériorisant, quelque part, il se fragilise. Et il le fait, l'effort. Et il croit qu'en face, il va trouver la même chose. Et en face, il trouve un spectateur. C'est dur quand vous êtes acteur et que l'autre est spectateur. Comprenez ça? Ah, tu fais vraiment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu amour, Chazak ou Barour, mais il n'y a pas eu crainte. La crainte, c'est la structure. S'il y avait eu la crainte à ce moment-là, ça aurait été de dire attends, avant de m'investir comme ça, je vais voir les signes avant-coureurs. Je vais voir qui j'ai en face de moi. Je vais voir si la personne que j'ai, elle est vraiment elle-même. Ou elle n'est pas plutôt le fruit de mon fantasme. Peut-être elle est simplement la résonance de mon désir, de mon besoin. C'est quelqu'un qui a faim, il voit de la bouffe partout. Il a faim. Il mange le papier peint, s'il y a des fraises. Et l'autre, il dit, mais c'est du papier peint. Pas manger le papier peint. Il dit, j'avais tellement faim. C'est pareil, des fois tu vois des couples, tu dis, purée, c'est vraiment des affamés. Hein. Ah bah oui, parce que pour se marier avec tout ce qui souffre, c'est que vraiment ils avaient faim. On ne peut pas savoir jusqu'à quel point est-ce que le besoin d'amour de quelqu'un, il peut le pousser. On ne peut pas savoir. C'est un besoin énorme. Pour peu qu'il ait un peu frustré dans sa jeunesse et qu'il l'attende dans son couple et qu'il ne le trouve pas, il peut devenir fou. Ou elle aussi, pareil. Parce qu'il y a un besoin d'existence. Or, l'amour, c'est quoi? C'est un investissement à l'existence. Mais il doit être structuré. Parce qu'on a non-structure, c'est le danger public. Regardez ce qu'il dit Rav Dessler. Si tu fais tout par amour, alors tu vas commencer à tout faire par amour et à tout aimer par amour. Par exemple, quelqu'un qui aime le manger, ben c'est un sentiment d'amour. Quelqu'un qui aime le sexe, c'est un sentiment d'amour. Puisque, attention, encore une fois, vous allez bien entendre, il y a une différence. Le désir, la passion, l'amour pur, le platonique. Non, ça c'est rien, c'est des facettes. Mais le principe, c'est toujours de faire un avec la chose. Quelqu'un, il veut faire un avec la nourriture. Ça, c'est un réflexe d'amour. Parce que amour, ça veut dire un. C'est quoi la boulimie? Il veut manger le monde, pourquoi? C'est quoi? Il veut faire un avec la matière. L'autre, il veut faire un avec le corps de l'autre. Il veut faire un. Alors, il veut rentrer à l'intérieur du corps de l'autre. Mais c'est une volonté de faire un. Donc, au départ, c'est une volonté d'amour. Mais pas forcément de l'amour de l'être lui-même. Peut-être c'est sa face externe. Peut-être c'est une domination. Peut-être c'est une, comme quelqu'un il domine un œuf, il le mange, il veut dominer une personne, il veut la consommer. Vous comprenez ça? Mais a priori, c'est toujours un sentiment vers l'autre, de recherche d'unité. Ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec la recherche de pouvoir. C'est pas pareil. Parce que celle-là, elle vient de la crainte. Quelqu'un, il a besoin d'écraser les autres pour être rassuré. Parce qu'au fond, il est faible. Quelqu'un, il a besoin de crier et d'impressionner. Parce qu'il n'a pas de force. Les gens qui crient, c'est toujours les gens les moins dangereux. Il faut savoir une chose. Parce que quand on sort les armements, c'est qu'on est fragile. Mais quelqu'un qui vient à main nue et qui provoque la bagarre, tu dis celui-là, ou il est fou, ou il est fort. C'est comme ça. Donc, à partir du moment où quelqu'un, il dit le Rav Dessler, il fait les choses pas que par amour, eh ben il va faire aussi par amour pour la bouffe, il va faire pour le sexe, il va faire par amour pour le kavod, pour l'image, il va faire par amour. Et c'est illimité. Et plus il va s'investir pour obtenir, et plus il va augmenter son potentiel de déception, et plus il va développer son potentiel de rébellion. Puisque le principe, c'est toujours le même. Investissement, déception, rébellion. Tu rêves de quelque chose, tu t'attends à quelque chose, tu trouves autre chose, tu t'énerves. Parce que le degré d'investissement, il te calcule le degré d'explosion. C'est comme si quelqu'un te dit, tu sais, il y a la moitié du réservoir d'essence qui a coulé par terre. Il dit oui, et alors? Il dit oui, mais mon cousin, c'est un grand fumeur. Si c'est le quart du réservoir d'essence, c'est moins grave que si c'est la moitié du réservoir d'essence. Alors, plus le degré d'investissement il est grand, plus la catastrophe elle est grande. Parce qu'il n'y a pas de structure. Alors, s'il n'y a aucune structure, ouh là là, tu t'attends déjà là, au massacre. Par exemple, il y a des gens, tu les vois, c'est des bienheureux. Comme ça. Nia. Ceux-là, on prie pour qu'ils ne se réveillent jamais. Parce que le jour, ils vont se réveiller et... Oh. Ils vont dire, celui-là, il s'est moqué de moi, celui-là, il s'est moqué de moi, celui-là, il s'est moqué de moi, celui-là, il s'est moqué de moi. Il va faire une implosion comme ça. Vous voyez, Hiroshima, mais intérieur. Parce qu'il s'est hyper donné sans structure. L'inverse, si quelqu'un, il fait tout par crainte, ouais, alors pression, déception, angoisse, petitesse, mesquinerie. Vous savez, la crainte, c'est pas simplement la peur. Il y a l'appréhension aussi. C'est pas la peur. C'est la peur de la peur. Et il y a la peur de la peur de la peur. Vous avez jamais pensé à ça? C'est effroyable. Quelqu'un, il est à l'intérieur. Il est bien au chaud. Tu dis, sors dehors. Il dit, pourquoi je vais sortir dehors? Tu fais, sors! Non, pourquoi je vais sortir? Je suis bien. Tu dis, mais quand même, il faut vivre. Tu dis, pourquoi? Il fait chaud ici. Il dit, oui, mais t'as 34 ans. Il est mieux chez sa mère. Pourquoi il va sortir? Il a un petit boulot tranquille. On lui demande pas de réfléchir. Ça fait 40 ans qu'il est là-bas. Pourquoi il va changer? Sa mère, elle lui fait à manger. Pourquoi il va bouger? Il est bien. C'est comme ça. Ils appellent ça la sécurité fœtale. Il a la crainte. Vous comprenez ou non? Il a peur. Mais dans l'autre, c'est pareil. Il dit, moi, je suis bien. Vous savez quelle est la différence entre quelqu'un qui gagne 100 000 francs et quelqu'un qui gagne 6 000 francs? C'est très simple. C'est qu'il y en a un qui est prêt à prendre des risques et l'autre il veut pas. Il y en a un qui veut des responsabilités, l'autre il en veut pas. Parce que le niveau du salaire est toujours en fonction de la responsabilité. Donc quand le type il dit « Ouais, mais les inégalités sociales, pourquoi lui il gagne 100 000 ?» Mais lui il prend des risques, il a des cheveux blancs. Toi, quel risque tu prends toi? Toi, tu prends un risque quand tu prends ta boîte à outils, tu risques de la faire tomber à côté de l'étagère. Oh, le risque! Lui, il a mis 4 millions de francs et pendant 3 semaines... Pendant 3 mois, pendant 4 mois, jusqu'à la fin du chantier, jusqu'à la fin la vente du 4e ou du 50e appartement, il sait pas s'il va toucher de l'argent. Donc lui, il a balisé pendant 3 mois, et donc il a peur, il touche 100 000. Responsabilité augmentée, risque augmenté, tu augmentes. L'autre, il dit, moi, je prends pas de risque. Je me rappelle cette pub là du Parti communiste, il marquait « Monsieur X a gagné 5700 fois le SMIC en une minute à la bourse. » Genre, c'est honteux. Pourquoi? Qui t'empêche à toi? Toi, tu gagnes 5000. Eh ben prends 3000, va les placer. T'as gagné 9000. Eh ben va placer 8000. T'as gagné 100 000. Eh ben va gagner... Tu verras que ça va venir un jour. Ah, tu dis « Non. Moi, ce que je voudrais, c'est rester chez Renault et dans les allocations familiales, toucher 1 300 000. Ou la 2. C'est pas possible, mon frère. Des risques, des résultats. Pas de risques, pas de résultats, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Ça s'appelle les inégalités. Oui, les inégalités, c'est les inégalités de risque, les inégalités d'effort. L'autre, il se travaille, il pose quand même malade, il ouvre le magasin, il s'engage envers les fournisseurs, il s'engage envers la banque, et il fait du commercial. Eh ben, il gagne! Tu dis, bah, pourquoi il a gagné, lui? Mais toi, t'es tranquille, qu'est-ce que tu veux, toi? T'es fonctionnaire, tu touches 7244 francs depuis 14 ans, t'es content. Eh ben, sois content! C'est bien, t'as changé deux fois du papier peint. Saha pour toi, Blainara. Blainara, que t'as changé deux fois le papier peint. Blainara. Qu'est-ce que tu veux, maintenant? Lui, c'est ce qu'un de la santé, il touche! Ah, t'as peur de prendre des risques. T'as la crainte de la crainte de la crainte de la crainte. Eh ben, c'est tout. T'as ce que t'as. C'est comme ça. L'amour, c'est l'investissement. La crainte, c'est la restriction. C'est un choix. Maintenant, il y a un réflexe de restriction qui est nécessaire et il y a un réflexe d'investissement qui est nécessaire. L'excès d'investissement, dangereux. Sans crainte. L'excès de crainte, sans investissement, dangereux. La Torah, elle te dit, les deux, ils sont régulateurs. Régulateur à 100%. Ça, c'est marqué dans Tana de Beliaou au Péric Guimel. Anis amarti betor irati. Moi, je me suis réjoui à l'intérieur de ma crainte. Veyareti betor simrati. Et j'ai eu la crainte à l'intérieur de ma joie. C'est-à-dire que tu as le droit de te réjouir dans la Torah. C'est une grande mitzvah. Très grande. Mais il ne faut pas oublier la crainte. Parce qu'il a rigolade, la rigolade, la rigolade, la rigolade, la rigolade, adultère. Eh ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Grande rigolade, grande rigolade, grande rigolade, grande rigolade, adultère. C'est comme ça. Les gens, ils disent, à quoi servent les règles? Il y a des gens, par exemple, ils ne veulent pas entendre le mot interdit. Je ne veux pas. Tu leur dis à ceux, ils disent, ah, pourquoi tu dis ce mot? Pourquoi tu dis ce mot? Enlève ce mot, enlève ce mot de ta bouche. Mais c'est la structure, mon frère. Regarde, par exemple. Tu es interdit par les murs. Tu es interdit par les rues. Tu es interdit par les trottoirs. Tu es interdit par les sens interdits. Tu es interdit par le ciel à cause de ton poids et de la pesanteur. T'es interdit du magma de la terre grâce au trottoir. T'es interdit du caniveau parce qu'il y a une petite ouverture. T'es interdit de plein de choses, ça te dérange pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, ils veulent pas. Ils disent, je suis libre, laisse-moi vivre. Mais ils vivent dans quoi? Je n'ai pas compris, c'est quoi la liberté? C'est quoi? Regardez par exemple, la Torah elle dit, tu ne peux pas t'isoler avec une femme. Interdit par la Torah. T'isoler avec une femme mariée, hein, ou même célibataire, mais et que toi, t'es déjà marié. Ou... Tu ne peux pas trop parler avec une femme. Tu ne peux pas convoiter une femme. Tu ne peux pas désirer une femme. Tu ne peux pas regarder avec un regard... Ouais. Tu ne peux pas toucher une femme. Tu ne peux pas embrasser une femme. Tu ne peux pas faire plus. Alors tu dis, mais quand même, ça fait beaucoup d'interdits tout ça. Faut être un peu ouvert, faut être un peu cool. Ça va? Ça va? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux t'isoler? Allez, isole-toi. Tu veux parler un petit peu? Allez, parle. Tu vas avoir une petite communauté de compréhension intellectuelle? Vas-y. La communication intellectuelle, elle t'amène à une communication sentimentale? Vas-y. Ah, le sentiment, il t'amène à une recherche de proximité? Vas-y. Tu fais que la bise, il n'y a pas de problème. Tu dis la bise, elle s'est un petit peu prolongée. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Tu l'as un petit peu matérialisé avec les mains, ça fait. Vous avez embrassé un autre endroit, c'est bon. Pas être non plus trop orthodoxe. L'ennui, c'est que c'est la femme de ton meilleur ami. Alors là, c'est gaffé là. C'est comme ça. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on se balade. Quand on se balade, on erre. Et quand l'adulte erre, l'enfant apparaît. Que c'est pas là. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu, alors. C'est comme ça. Et à chaque fois, les gens, ils te disent, vous exagérez les religieux. Et la Torah, elle te répète, la vie, dans certains domaines, c'est un toboggan glissant. Donc, en vérité, quand t'as mis un pied là, t'as mis un pied là-bas. C'est comme si un type te dit, écoute, moi, la cocaïne, je suis très clair. J'en prends une fois et c'est tout. Une fois et c'est tout. Oui, bien sûr. T'es pas un peu malade? Je crois pas qu'il va t'arriver quelque chose. Tu vas pas redemander. La Torah, elle sait que c'est une pente glissante. Donc la Torah, tu dis, ne rentre pas dans l'histoire. C'est pas la peine, t'es pas armé. T'es pas armé. T'es pas armé, tu viens. Tu viens. Tu rentres à 9h30 du soir. Tu tapes chez ton copain. Elle te dit, mon mari n'est pas là. Eh ben, casse-toi. Qu'est-ce que tu dis? Bon, je peux rentrer un peu, je suis un peu mal en ce moment. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Bichlal? Là, tu dis, mais je suis pas religieux. Bon, d'accord. Alors, d'accord, t'es pas religieux. Alors, tu parles. Moi, tu commences à lui raconter ta vie. Mais en quoi ça la regarde? Parle avec ta femme, pourquoi tu parles avec elle? Bon, mais elle me comprend, elle m'écoute. D'accord. Mais pourquoi tu t'es mis sur le même canapé? Il est 9h30 du soir, elle est pas très bien habillée. Tu sens que c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu restes? Pourquoi tu restes? Mais je suis pas religieux. C'est quoi pas religieux? Ça veut dire, pas religieux, ça veut dire naze? C'est ça, pas religieux? Comprenez ou non? Ah, tu lui dis, excusez-moi, madame, je sais que vous êtes mariée, il est 9h30 du soir, je rentre chez moi. L'autre, il dit, ah, faut être un peu cool, hein. Keep cool! C'est glissant, mon frère, ça glisse. Les trois quarts des gens, ils se réveillent le matin, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment j'ai fait cette bêtise? Moi, je les ai au téléphone. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte, monsieur le rabbin. Je ne suis pas religieux. J'ai honte de ce que... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au mikvé. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un fusil, mon vieux, tu règles le problème. C'est pas la solution, c'est une façon de parler. De toute façon, t'as fait un meurtre. Déjà, s'il y en a un deuxième, Kosovo, Sovo, d'accord? Donc ici, c'est pareil. Si quelqu'un comprend ça, il comprend que la crainte, les gens, ils croient que la crainte, ça s'adresse aux religieux. Ça m'a fait toujours rigoler, ça. Mais tu vois, le religieux, lui, il a la crainte. Il dit, mais nous, au Hachem, on est très ouverts, c'est centre culturel, ouverture, échange, pluralisme, ouverture. Je dis, mais t'as pas compris, c'est toi qui as besoin de la crainte, c'est pas lui. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas, ça. Un type qui connaît rien, il fait attention. Un type qui connaît, il fait moins attention. Maintenant, un type qui connaît pas, il fait pas attention. Qu'est-ce qui va arriver? Une catastrophe. Tu vois, le type, il rentre dans la salle d'opération. Poussez-vous. Ça vous dérange pas si je... Vous êtes chirurgien? Non, je suis plombier. Et alors? De toute façon, pression, hyperpression, mouvement, système, plomberie, ça me connaît. Il va tuer le mec. Il est fou. Vous comprenez ça ou non? Un minimum de crainte. C'est ce que la crainte, la conscience. À chaque fois qu'un type, il lâche la conscience, il sait qu'il va faire une bêtise. Mais si, a priori, il décide d'organiser sa vie en dehors de la conscience, c'est pas de l'inconscience. C'est du vice. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les gens ils te disent, c'est une religion d'amour, une religion d'ouverture. Après, ils te disent, c'est pas une religion, c'est une façon de penser. Après, c'est pas une façon de penser, c'est un esprit. Après, c'est pas un esprit, c'est une communion de d'être. Il y a plus de crainte. Fais gaffe. Vous comprenez ou non? C'était une synagogue, c'est devenu un centre communautaire. Centre communautaire, soirée dansante. J'ai 14 ans, je suis enceinte. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben écoutez, moi, je fais pas les soirées dansantes, moi, je m'occupe de la prière. Mais comment ça peut arriver? Ça peut arriver parce qu'on a oublié la crainte. C'est facile. Amour, investissement, ouverture. Ouverture, liberté. Liberté, libéralisme. Libéralisme, libertinage. Libertinage, orgie. Tu dis, c'est exagéré. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Ouvre tes yeux, mais regarde devant toi. Tu dis que c'est exagéré. C'est pas exagéré. C'est les limites. C'est comme quelqu'un qui te dit, écoutez, je ne suis pas religieux, mais quand même, j'ai certaines règles morales. Il faut avoir des petites règles minimum. Par exemple, tu as appris que la femme de ton copain, c'est pas la tienne. C'est une petite règle. C'est rien. Ta maison, c'est pas celle de l'autre. C'est rien. Ton fils, ta fille. Attention, c'est ta fille. C'est ta fille. Pourquoi t'insistes? T'insistes. Et si les gens, ils vont dire, mais vous exagérez. Pourquoi vous avez, comme Karim m'a dit une fois, pourquoi vous avez un discours négatif? Moi, j'ai pas un discours négatif. Moi, c'est quand le téléphone, il sonne et que j'entends des horreurs. Je dis, mais il faut bien que je parle un petit peu dans les cours. Je vois, on sait jamais. Et la preuve, c'est que j'ai des gens sincères qui viennent et me disent, bah, écoutez, j'étais à deux doigts. À deux doigts. Grave, hein? On peut pas savoir. Celui qui n'a pas de règles, celui qui n'a pas l'aïra, il est ouvert à n'importe quelle porte. N'importe quoi! Et croyez-moi, je vais vous dire un truc grave, il fera par amour. Mais pas dans la définition de l'amour qu'on a, nous. Parce que malheureusement, nous, on a une définition de l'amour qui est très restreinte. Parce que notre mode d'éducation, il est basé sur le cinéma. Alors le cinéma, c'est un amour restreint. C'est-à-dire, à part le Titanic, on ne sait pas ce que c'est l'amour. Mais si la Torah, elle t'explique ce que c'est l'amour. L'amour, c'est l'investissement, c'est la recherche de l'unité. Et bien, quelqu'un qui va avoir une recherche d'unité, il va avoir une recherche d'unité avec ceux qui veulent son proche. Comme ça, l'a dit Freud. Ouais. Et comme ça, l'a dit la Torah il y a 3500 ans. Dans le Sforno sur la parachat qui douchine. Ah, comment Freud ne savait pas? Il n'avait pas de filine, Freud, qui lui demandait. Donc ici, c'est marqué qu'un homme, il doit se réjouir. C'est une grande mitzvah de se réjouir. Mais avec la crainte. C'est une grande mitzvah d'avoir de la crainte. Mais avec la joie. C'est deux régulations. Deux systèmes qui sont autorégulés en soi. Impossible d'échapper à l'un ou à l'autre. Et sans ça, on n'évoluera jamais. Et ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. On peut s'éclater. On peut s'éclater. Moi, je vous emmène à Simchat Bet HaShoeva, chez les Hasidim là-bas, à Mea Shearim. Vous avez jamais vu une joie comme ça de votre vie. Jamais vous avez vu ça de votre vie. 5000 personnes qui s'éclatent. Ils s'éclatent. Il n'y a pas une faute. Il n'y a pas un traloïde. Il n'y a pas un sous-entendu. Il n'y a pas un malaise. Il n'y a pas un regard. Il n'y a pas une saleté. Il n'y a pas une pourriture. Il n'y a rien. Tu sors, t'es pas la peine d'aller au mikvé. Comprenez ou non? L'autre, il dit, moi, je vais au Palladium. Je m'éclate. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des formes, il y a de la chair, il y a de la chaleur. Il y a des hommes aussi, hein, il y a des regards, hein, il y a des idées, hein, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. La seule différence, c'est que quand tu sors, t'as honte. T'as honte. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai trop bu. Maintenant, ils prennent le... Comment ça s'appelle ça? La petite pilule bleue, là. Extasie. Extasie. Moi, j'ai des gens qui ont fait tchouva, ils m'ont raconté les soirées raves. Comme ça, ils appellent. Raves. Au Canada. Au Canada, des soirées comme ça, ils prennent des grands entrepôts. Il y a 5000 personnes. Tu n'as pas le droit de rentrer si tu n'es pas torse nu. C'est interdit. Torse nu. Hein. Et c'est mixte. Hein. Déjà, tu vois que le ton, il est mis dès l'entrée. Ils croyaient que c'était une soirée musicale, culturelle. On va écouter du violoncelle. Il y aura des violences, mais pas du style que tu crois. D'accord? Et qu'est-ce que c'est ce médicament-là? Ça développe la sensibilité. Tu vois un petit peu le vice? C'est de la folie. Un effet dépressif. En plus, ça donne soif. Ça donne une soif abominable. Vous savez ce qu'ils font? Ils vendent $10 la bouteille d'eau. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'eau dans les toilettes parce que les gens ils vont chercher de l'eau. Après, ils crèvent. Ils crèvent de soif, les gens. Le mec, il paye pour ça. Il paye pour être un brel. Il paye pour être considéré comme un rat dans une boîte qu'on ne lui donne pas à boire. On lui excite les nerfs, on lui met de la musique, on lui excite les yeux et on ne lui donne pas à boire. Et il crève et il est content. Mais dans content, il y a deux mots d'après ce que je vois. C'est la folie. Ouais, et ils appellent ça s'éclater. Je me suis éclaté. C'est vrai que la Neshama, elle est en état abominable. Tout le monde a besoin de donner. Tout le monde a besoin de recevoir. Tout le monde a besoin de structure. Tout le monde a besoin de limites. C'est marqué ici. Et quelqu'un, il comprend qu'en vérité, la Torah, elle t'a donné un programme de travail dans lequel tu vas t'épanouir. Parce que la Torah, elle a donné l'amour et la Torah, elle a donné la crainte. Alors, il faut arriver à comprendre comment est-ce que ces deux pôles-là, ils vont être complètement... Ils vont s'inclure l'un dans l'autre, par exemple. C'est marqué « Sourmera ve asetov ». Écarte-toi du mal et fais le bien. Toujours, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux? Écarte-toi du mal et fais le bien. Fallait dire « Asetov, fais le bien, c'est tout ». Pourquoi tu as besoin de t'écarter du mal? C'est très simple. Parce que celui qui n'est pas en lutte contre le mal, il est dans le mal. La seule réussite qu'on peut avoir contre le mal, c'est dans la lutte. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Et le type qui dit « Mais Chas v'Shalom, mais pourquoi vous avez dit des mal placés? Moi, j'ai pas dit des mal placés. Mais je sais que quelqu'un qui ne lutte pas plonge. C'est pareil. Regarde. Tu vois l'intelligence. L'intelligence. Ça ne peut être atteint que par la lutte contre la bêtise. Le dynamisme. Ça n'est atteint que par la lutte contre la flemme. La réussite. C'est la lutte contre l'échec. Oui. Tout est résultat d'une lutte. Tout. Donc, celui qui n'est pas en lutte, c'est qu'il a décidé de rater. C'est pas shoot. Par exemple, les seules choses qui poussent toutes seules, c'est les mauvaises herbes. Mais le blé, faut travailler la terre. Jamais tu t'es demandé. Or, quand tu dis, oh, je suis jaloux sur l'intelligence. Mais pourquoi t'es jaloux, imbécile? Va à la fac, fais tes exercices, apprends tes cours, récite-les, enseigne, tu vas être haram. Non! Je suis jaloux, ça veut dire quoi? Je voudrais l'intelligence en kit. Boîte à 100 balles. Tu mets 100 balles, tac, haram. Ça existe pas! Le blé, ça pousse pas tout seul. Mais t'es brel ou quoi? Regarde, le blé, il pousse pas tout seul, non? T'as compris? Tu vois, un type, il arrive, il voit que des champs de blé, Il dit, oh là là, ils ont de la chance si ça pousse tout seul. T'as jamais eu l'idée que ça poussait tout seul, non? Eh ben, la sagesse, c'est pareil. La réussite, c'est pareil. La construction personnelle, c'est pareil. Oh, tu dis, oh, il a équilibré, il a du pot. Sûrement qu'il a eu une jeunesse facile. Mais non, il a lutté contre la petitesse, il a lutté contre ses complexes, il a lutté contre l'infantilisme, il a lutté contre la lourdeur. Alors il est devenu équilibré. Ça s'appelle Sourmera. À cette œuvre, il faut construire à part ça. Il faut investir, il faut apporter, il faut développer. Impossible autrement. C'est tout le temps la construction et la lutte contre le négatif. C'est tout le temps, c'est comme ça. Les géants, des fois, ils viennent en dépression. Ils viennent. Enfin, programme. J'en ai écouté programme double. Double. Les œillères. Tout le négatif, tu l'exclus. Tout. Tu deviens brel. Tu vois que le bien. Tu regardes la lumière. Tu dis, mais je suis pris, j'ai des monstres. Je suis poursuivi par le KGB. Ça, il y a tous les obsessionnels. Je lui dis, écoute-moi bien. Tu regardes devant toi. Et tu avances. Les œillères. Pour le mal. Le résultat. Pour le bien. Et tu traces. Il va s'en sortir. J'ai pas peur pour lui. Mais sinon, ça sert à rien. Imagine, toi, tu fais ta maison. Tous les soirs, il y a un mec qui enlève les briques. Le jour, tu mets les briques. La nuit, il enlève les briques. Ça va, ça avance ta baraque? Au Hachem, au Hachem. Pour l'instant, j'ai un terrain vague, mais vaguement un terrain. C'est pas possible, mon frère. Donc, il faut faire des briques pour construire et une palissade pour les SDF, pour les gens qui vont fouiller dedans, pour les voleurs, pour les bandits. T'es obligé. T'es obligé. La Ira, c'est la palissade. Oui. La Ahava, c'est la construction. Impossible autrement. Or, c'est marqué. L'amour, ça te rapproche d'Hachem. La crainte, ça t'éloigne du mal. Si un homme, il n'a pas une perception claire des dangers qui l'entourent, il va être dedans. C'est comme quand tu roules sur la route, tu vois. Tu roules, tu vois le virage, et tu dis, attention, virage. Tu connais les gens têtus qui disent, mais je me dis, alors il y a un virage, moi. Anarchiste, ni Dieu, ni maître, ni route, moi. Il y a des gens comme ça. Il se prend le mur en pleine tronche comme ça. Comme ça. Et tu vois sur sa tête que c'est un type révolté. Il est éclaté. D'accord. Ça n'existe pas. Un type, il dit, il y a un virage, je tourne. Oui ou non? C'est pareil. Alors, la Torah te dit, ça fait gaffe. Ça fait attention. Ça fait attention. Ça fait attention. Un chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, merci. Merci du conseil. Et il tourne. Il y a un virage. Il tourne. Attention, éboulement, il s'écarte. Pente à 4%, eh ben il freine. Non, le brel, il accélère. Il va mourir. Il est brel. C'est pareil ici. À partir du moment où quelqu'un comprend que cette crainte-là, c'est la structure dont on a besoin, que l'amour, c'est le fluide dont on a besoin. Donc il y a toujours un fluide et une structure. C'est comme un tuyau et de l'eau à l'intérieur. Tu dis, tu te rends compte, il y a le château d'eau là-bas et il y a toute cette eau-là qui vient dans chaque maison. On peut prendre une douche, on peut laver le parterre, on peut se rafraîchir. Bah, au Hachem, il y a de l'eau. Maintenant, pour que cette eau, elle vienne, il faut, regardez bien, il faut un tuyau et de l'eau. Un type, il dit, moi, j'ai le tuyau, mais j'ai pas d'eau. L'autre, il dit, moi, j'ai l'eau, moi, mais j'ai pas de tuyau. C'est impossible. La structure, elle contient. L'eau, elle justifie. L'amour, c'est nécessaire. C'est le fluide qui va exister entre moi et le monde. Entre moi et l'autre. Entre moi et Dieu. C'est le fluide. Vous voyez ce flux d'existence. Imagine, essayez d'imaginer ça, qu'il y a une personne avec une ouverture comme ça, et qu'il y a un flux existentiel qui se perpétue. Ça s'appelle l'amour. On existe par amour, parce que aimer, ça ne veut pas dire « je t'aime, je t'adore ». Aimer, ça veut dire exister positivement. Maintenant, si c'est dans le but de faire un, alors on va faire exister positivement dans le but de faire un avec l'autre, faire un avec Dieu. Comme on peut aimer la bouffe, c'est exister positivement dans le but de faire un avec la nourriture. C'est aimer, ça veut dire toujours exister dans le but de faire un. C'est facile. Mais ce fluide-là, ce fluide, s'il n'est pas orienté, s'il n'est pas structuré, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas un plus grand gaspillage que ça. Il n'y a pas plus. Combien tu vois des gens? Ils ont un potentiel énorme. Ils font des efforts extraordinaires. Mais il n'y a pas de structure. Oh, tu dis quel gaspillage. Maltacherie. Incroyable. Imagine-toi, tu as un enfant qui a faim. Tu le mets sur sa chaise. Tu as le petit pot comme ça. Ça fait 2 semaines et demie qu'il n'a pas mangé. Tu vois un peu la tête qu'il a. Et toi, tu prends la cuillère, mais comme t'as un peu trop abusé sur la bouha, tu mets à côté, tu vois. Tu fais, Mais mange! Qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou, le gosse. Il fait exprès ou quoi? Il crève! Tu mets à côté. Donc, volonté positive, manque de structure. Manque de structure. Bah. Tu vois la frustration? Eh bien, c'est exactement pareil dans la vie. Moi, je vois énormément de gens. Ils sont l'un en face de l'autre. Il y a des efforts effroyables qui sont faits. Mais à côté. À côté, ah oui, à côté. Comprenez ça ou non? Imagine, tu as une montagne. Tu vois, tu as les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées. D'un côté, il y a un Espagnol. L'autre côté, il y a un Français. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, eh ben, vous savez quoi? On va creuser un tunnel. Dans le but de se rejoindre. L'amitié entre les peuples. Mais les idiots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se concertent pas. Donc, il y en a un qui commence à creuser avec une volonté profonde de rejoindre l'autre. Et l'autre, il creuse dans une volonté profonde de rejoindre l'autre. Mais comme ils ne sont pas concertés, ils creusent comme ça. Alors, au bout d'un moment, ils ont fait exactement la distance qui est nécessaire. L'autre, il a dit, moi, il m'a dit, creuse 10 km, j'ai creusé 10 km. L'autre, il a dit, moi, j'ai creusé 10 km. Mais ils n'ont pas creusé en face et en phase. Donc, ils ont fait les efforts à côté. Alors, ils s'énervent parce qu'ils ne trouvent pas l'autre en face. Alors, ils éclatent. Il y avait une volonté d'amour, il n'y a pas de structure. Mais attention, c'est très grave parce qu'il y a des gens qui continuent à creuser, qui s'épuisent à creuser, qui se détruisent à creuser. Pour rien. Pour rien. Moi, j'ai vu des montagnes d'amour. Et l'autre en face, l'iceberg. Comment on dit en hébreu? On a l'iceberg. J'ai dit à une femme une fois, je lui ai dit, mais madame, vous êtes, comment est-ce que vous pouvez rester aveugle de l'amour que votre mari vous donne? Je lui ai dit, bon, c'est possible, il a fait des erreurs. Maintenant, il a changé. Maintenant, il veut que ça s'arrange. Non. À l'époque, c'est moi qui faisais les efforts. Et lui, il faisait la tronche. Maintenant, lui fait les efforts, moi, je fais la tronche. Je lui ai dit, mais madame, jusqu'à quand ce gaspillage? Jusqu'à quand? C'est pas possible. Une montagne. De ce que moi, j'ai pu réfléchir et imaginer, j'ai jamais vu un amour comme ça. Et l'autre? Comment on dit? Voilà. Chêne neuf. Schmoum. La paroi. Le mur de Berlin. Sigil amour. C'est possible ça? Parce qu'ils n'ont pas. Regardez. Un côté de l'autre. C'est vrai. Razak pour l'investissement. Et la structure. Où est la structure? Razak pour l'amour. Où est la crainte? Et ça, vous allez voir, ce modèle-là, quand vous allez mettre ces lunettes-là de secours, vous allez mettre ces lunettes et vous allez regarder la vie autour de vous. Mais vous allez crever de rire. Comment le monde, il marche comme ça? Regardez même dans la Torah. Regardez le judaïsme autour de vous. Vous avez des systèmes. Au Krachem, il y a de l'amour, mon frère. Bon, je te fais ça, et je te fais mouvement, et je te plante des arbres, et je te plante. Il n'y a pas de crainte. Où ça va? Halet. Une fois, j'ai attrapé un réformiste, un responsable d'un mouvement réformiste. Je lui ai dit, mais vous ne sentez pas qu'il manque quelque chose chez vous? Il m'a dit non. Je lui ai dit, il manque une âme. Il dit, c'est vrai. À force de faire l'ouverture, on a perdu le principal. Il manque l'âme. Et d'où elle vient l'âme? La crainte. C'est un révélateur. La crainte, c'est un révélateur. Et pourtant, il y a un développement d'amour extraordinaire. Ouverture, acceptation de l'autre, destruction des différences, différence de sexe, il n'y a plus, différence de religion, il n'y a plus, différence de, il n'y a plus rien, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus rien. Ça va, c'est bien. Mais il faut savoir une chose, que la destruction des différences, oui, elle détruit aussi les spécificités. Or, l'évolution, c'est la confrontation des spécificités. Ils ne veulent pas comprendre ça, les gens. La crainte, ça t'oblige à être toi-même. Et l'amour, ça t'oblige à exister. Or, exister en étant soi-même, c'est la combinaison entre l'amour et la crainte. L'amour, sans la crainte, c'est le mondialisme. On est tous un. On fait un. On se fond les uns dans les autres. Le monde, c'est quoi en vérité? C'est un yaourt. On est un gros yaourt. D'accord? C'est pas vrai. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est le monde, c'est comme un grand puzzle. Chaque pièce, elle est unique. Mais quand tu les colles tous ensemble, ça fait une image parfaite. Alors qu'eux disent non, nous sommes chacun des gouttes de mercure. Et quand on les met ensemble, ça fait une flaque. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on annule la spécificité de chacun? Pourquoi tu veux m'enlever le droit d'être moi-même? Pourquoi tu veux? Moi, je peux t'apporter avec mon côté unique. Toi, tu vas m'apporter avec ton côté unique. Mais comment je vais préserver mon côté unique? Par ma structure? Parce que l'amour dans le sacrifice, c'est l'annulation de soi. C'est vrai, l'amour, c'est l'annulation de soi. Or, qu'est-ce qui va te retenir dans ton annulation de soi pour garder ta spécificité? La crainte. Comprenez ou non? La Torah te dit, existe, mais sois toi-même. Je dis, mais pourquoi? Mais au contraire, si je suis personne, on va tous être tout le monde. La Torah ne veut pas de ça. La Torah, elle veut que chacun soit lui-même et que la somme des individus donne une globalité. Donc l'amour, c'est fait pour relier des êtres qui sont uniques. C'est pas pour que on se choisisse des symboles qui vont nous unir, comme un drapeau ou là une basket, ouais. Et on va tous être des Nikers. Ouais ou non? Je vous ai dit que cette étude qui a été faite à la Columbia University, ils ont découvert quel est le point commun qui existe entre les baskets et Michael Jordan. La tête de Michael Jordan et les baskets. Quel est le point commun? L'air. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé bonne. C'est marrant, pareil, elle marche mieux. Hein. Bon. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez une chose incroyable. C'est que quand la Torah, elle m'a demandé d'accomplir une mitzvah positive, c'est qu'elle m'a demandé, sache une chose, c'est que tu dois exister. Maintenant, dans cette tentative d'existence, il faut qu'il y ait une structure. Alors, la Torah, elle t'a donné des lois. Maintenant, quand toi, tu vas t'investir, par exemple, tu vas mettre les téphilines, oui, la Torah, elle te dit, mets les téphilines. C'est quoi les téphilines? Les téphilines, c'est un acte positif qui te permet de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par la pensée. Par la pensée. Mais d'un autre côté, la Torah te dit, attention, quand tu mets les téphilines, tu dois être propre. Tu dois pas avoir des mauvaises pensées. Tu dois pas non plus émettre des gaz. C'est une loi des téphilines. Si t'as mal au ventre, tu mets pas les téphilines. C'est vrai. Alors les gens, ils vont dire, mais enfin, c'est pas grave, c'est la nature. Mais non. Non. C'est pas vrai. C'est que quand quelqu'un, il cherche une proximité, donc il est obligé de venir avec un grand respect. Ce respect, il s'explique par le fait que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et si les gens, ils vont dire, bon, mais écoute, tu sais, comme les gens, comment ils appellent ça, pas les naturistes, les naturalistes. Comment ils font avec les gens? Écoutez, monsieur le rabbin, c'est la nature, il faut être ouvert. Non, pas naturiste, naturiste, c'est déjà plus déshabillé déjà. Ouais. Les gens, la nature d'abord. Combien de fois il m'a dit, combien vous lutterez contre les frustrations? Regardez en Suède, ils sont torse nu. Voilà! C'est la loi de la nature, il faut être nature. Je dis, attends, c'est nature, d'accord, mais enfin, tu vas faire une déclaration, tu vas en plein milieu, tu vas pas faire. Tu dis, bon, c'est la nature. Mais attends, on n'est pas des chiens non plus. Vous comprenez ou non? Il m'a dit non. Il dit, c'est marrant, chez vous, les toilettes sont petites et la salle à manger est grande. Parce que c'est pas la même dénomination. J'ai pas compris. Voilà, c'est ici les toilettes. Donc on fait ça en groupe, nous. C'est la nature. T'as déjà vu un veau qui se cache, quoi? Une vache, elle se cache pour faire ses besoins. Comme ça, il m'a dit une fois. Il me dit, c'est vous, avec la psychiatrie, avec la truc, vous avez créé des malaises, des complexes. C'est la nature. Je dis, mais attends, faut quand même distinguer le chien de l'homme. Faut quand même décider. Moi, je veux bien qu'on descende du singe, mais on n'est pas quand même pas des chiens. Non. Les gens qui cherchent la nature, dans son essence, c'est parce qu'ils ont envie de se conduire de manière naturelle. Et c'est vrai qu'un chien, il va avec sa mère, il n'y a pas de question. Jamais eu de problème freudien. Pas de problème. Ici, c'est marqué. L'amour, la crainte. Tu mets les tefilines. C'est bien, c'est un élan d'amour qui va te rapprocher d'Hachem, Hazak. Mais il y a des règles. Tu fais la soukha, Hazak. C'est un moment où tu vas ressentir combien est-ce que Dieu, tu résides à l'intérieur de sa présence. C'est bien, mais il y a des règles. La crainte. La crainte, l'amour. La crainte, l'amour. La structure, le fluide. Perpétuel, impossible autrement. Pourquoi? Parce que ton intérieur, il a besoin d'exister. S'il n'y a pas de structure, gaspillage. S'il y a hyperstructure, destruction. Donc la Torah, elle te dit, tu as besoin de crainte. Alors tu apprends les lois. Mais tu vas pas apprendre les lois en main comme ça, tu vas dire, oh, ça c'est assourd, ça c'est assourd. Comme une fois quelqu'un m'a dit, on peut pas faire Shabbat, tout est assourd. Tout est assourd. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Mais non. Quand t'as appris ce qui est assourd, eh ben après t'as délimité les parois, et après tu sais ce qui est permis à l'intérieur. Et la liberté, ça se définit entre des limites. Ah, mais dans la Torah, pour te déterminer un certain degré de liberté, elle te définit un certain interdit. Et quand t'as découvert que l'interdit en vérité il est générateur de liberté, tu deviens haham. Comprenez ou non? Par exemple, il dit, t'as pas le droit de travailler, oui, mais t'as le droit de t'occuper de ta famille. T'as le droit de prier sans aucun souci, parce que t'as pas le droit de penser à ton travail. Donc quand tu vas prier aujourd'hui, tu vas pas prier pour ton business, tu vas prier pour te rapprocher d'Hachem. Qui c'est qui t'a donné la liberté spirituelle? C'est l'interdit du Shabbat. D'où il sort le Kodesh? Parce que tu sépares du Chol. Donc si tu ne sépares pas du Chol, eh ben le Kodesh, il est Chol. Comprenez ça maintenant? Et dans tout, c'est comme ça. Pourquoi tu as un lien privilégié avec ta femme? Parce que c'est ta femme. Mais si tu dis toutes les femmes sont mes femmes, il y a des gens qui conjuguent l'amour qu'au pluriel. Eh bien, chaque relation, elle est vide. Ils n'ont rien. Parce qu'il n'y a rien de spécifique. Donc ça reste superficiel. Or, le degré de lien que tu peux entretenir avec quelqu'un, il dépend toujours de la structure. C'est pour ça que dans un couple, il y a du respect, il y a de l'investissement, il y a de la compréhension, il y a de la communication. Pourquoi? C'est très structuré. Les gens qui veulent faire un couple comme ça, genre, oh ben, comme ça vient, comme on se ressent. Mais ça ne va pas à la tête, non? C'est très précis un couple. C'est atomique un couple. Je vous le dis, moi, c'est atomique. Moi, je gère, moi, je fais le service après-vente des centrales nucléaires de mariage. C'est atomique. Oui. Un mot de travers. Un regard de travers. Tu dis pas bonjour pendant 3 jours. Tu fais mal. Tu vexes. Ça se détruit, ça fait comme ça. 3 coups, tu exploses. Rappelez-vous de cette règle. Il faut 10 ans pour faire une vitre de 20 mètres sur 20 mètres. Il faut 1 seconde pour l'exploser. Il faut tirer une balle au centre de gravité. Alors vas-y, va refaire ta vitre. C'est très précis. Les gens qui croient que ça marche tout seul, c'est parce qu'eux, ils sont habitués. Ils ont ce qu'on appelle une expérience sentimentale de type médiatique. Genre, tu zappes, je t'aime. Tu zappes les infos. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est une construction. C'est pareil ici. Eh bien, dans le couple, il y a de l'amour et de la crainte. Il y a de l'amour et de la crainte. Il y a de l'amour, investissement. Mais il y a aussi de la crainte. Recul, respect, écoute. Faut se préparer à la différence, faut se préparer à la déception. C'est comme ça. Le mec, il comprend pas ça. C'est pas de l'amour, c'est de la consommation. L'autre, il croit que quand, en donnant, il acquiert quelque chose. Mais on t'a rien demandé, casse-toi. Tu donnes, tu proposes. L'autre, il accepte, il renvoie. On construit. Dialectique, ça. Ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a amour et il y a crainte. Il y a bonté et il y a reconnaissance. Il y a investissement et il y a respect. Il y a ouverture et il y a limite dans le langage. Tu vois bien que c'est tout le temps la même construction, tout le temps. Donc sans ça, un peu impossible de comprendre. Et ces deux fluides-là, quand ils se rejoignent et qu'ils avancent et qu'ils font évoluer l'être, que ce soit encore une fois au niveau personnel, parce que celui qui n'a pas un équilibre entre son pôle intellectuel et son pôle émotionnel, ça y est, il est foutu. Il se balade. La Gemara dit Rahmani Menam Haim. Ceux qui sont hypersensibles, ceux qui ont trop de Rahmanout, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas parce qu'ils sont tout le temps en train de souffrir. Ils deviennent parano, ils deviennent angoissés, ils deviennent. Celui qui est trop dur, trop comme ça, une barre de fer. Ouais, les gens y croient parce qu'il a une barre de fer, il a de la personnalité. Ça me tue ça. Il dit, quelle poigne! Moi j'ai peur pour lui. Moi je sais qu'à l'intérieur il y a une espèce de grosse termite à l'état de larve. Si la carapace elle est épaisse, c'est que la personne elle est fragile. Pourquoi il est tellement dur? Vous savez ce qui est dur? Vous savez ce que c'est avoir de la personnalité? C'est la savlanout, c'est la patience. Quelqu'un, il est là, il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il absorbe. C'est-à-dire quoi? Il accepte la différence de l'autre. Mais quel équilibre il faut avoir pour ça? Quel travail il faut avoir fait? L'autre, il n'est pas d'accord. L'autre, il ne dit pas comme toi. L'autre, il ne fait pas exactement ce que tu attends. Et toi, tu dis, il a le droit d'exister. Mais quel recul il faut avoir. Puisque, regardez bien, puisqu'un homme, il a besoin d'exister et qu'il a un fluide énorme d'amour, mais que cet amour-là, s'il n'est pas structuré, il devient dévorant. Donc, il a une potentialité de déception énorme. Donc, il a une potentialité de haine énorme. Donc, la Torah, elle dit, tu dois tout le temps structurer ton amour par ta crainte. Donc, celui qui arrive à accepter la différence de l'autre, celui qui arrive à écouter l'autre, celui qui arrive, regardez bien, à accepter les erreurs de l'autre, celui qui arrive à accepter les dommages que l'autre lui fait à lui, celui qui arrive à accepter l'agression de l'autre. Mais quel recul il a celui-là? C'est pour ça que c'est marqué « Ezeu Gibor, Akovesh et Titro ». Qui c'est le fort? c'est celui qui gouverne, qui contrôle son Yetzer, ça veut dire sa tendance. Mais c'est quoi la tendance? Est-ce que c'est la tendance? Il n'y a pas que Yetzer Hara. C'est la tendance existentielle. Un homme, il a une tendance existentielle. Mais cette tendance existentielle, des fois, elle peut écraser. Des fois, elle peut bouffer. Des fois, elle peut détruire l'autre. Simplement par désir d'existence. Alors, qui c'est qui est capable de se retenir d'exister pour que l'autre, il existe? Celui qui est fort, il dit Pirkei Avot. Ezehu Gibor, qu'est-ce qui est fort? Akovesh et Yitro. Et nous, on croit que celui qui est fort, parce que quand on l'énerve, il casse la figure, il est prêt à crier, il démarre au quart de tour. Tu crois qu'il est fort, lui? Il est très faible. Il est extrêmement faible. Et plus il crie, et plus il explose, et plus il extériorise, et plus il est faible. Il faut juste, attendre qu'il il arrête de crier. Et quand il a fini de crier, tu fais comme ça, il tend. Il s'écroule comme une cathédrale. C'est comme ça. Mais le contraire, quelqu'un qui absorbe le choc, tu le casses, il dit oui, oui. Après, tu t'as fini tes bêtises. Tu veux te conduire en adulte. Il te pique par là, il te pique à droite, à gauche. T'absorbes. Ouais. Faudrait pas oublier le principal non plus. Je t'ai fait du bien, dis merci. Je t'ai donné 10 000, rends 10 000. Tu dis ouais, mais comment tu me parles, comment... Ce que tu veux. Tu me dois 10 000 ou tu ne me dois pas 10 000? Tu me dois 10 000. Vous comprenez ou non? La perception, l'ouverture, l'application, la clarté. Comment il arrive à ça? Parce qu'à l'intérieur de lui, il est structuré. Émotionnel, intellectuel, structuré. Donc, existence, structurée. Si l'intérieur est net, l'extérieur, c'est la projection de l'intérieur. Donc, c'est net. Tu écoutes un discours. Tu écoutes une parole. Tu vois une attitude. Tu vois des réactions équilibrées. Projection équilibrée, intérieur équilibré. Impossible que l'image, elle soit trouble et que le diapo, il soit net. Pas possible, mon frère. Ah, l'autre, il a 1 milliard de justificatifs pour t'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est conduit comme ça. Mais c'est un accident, tu sais. Si le diapo, il est net, l'image, elle est nette. Quand tu mets la main devant la lumière, il y a 5 doigts, il y a 5 doigts dans l'ombre. T'as vu, toi, 4 doigts dans l'ombre, 5 doigts sur la main, ça n'existe pas. L'existence, c'est la projection de l'être. C'est comme ça. Alors, quand un homme, il va prendre la responsabilité d'être lui-même, alors il n'a pas de problème. Mais quand il n'assume pas d'être lui-même, alors automatiquement, il a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de correspondance entre l'être intérieur et l'être extérieur. Comment elle s'appelle l'hyperstructure qui permet de faire passer intelligemment de la face interne à la face externe? S'appelle la combinaison entre l'amour et la crainte. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est de voir qu'au niveau social, au niveau relationnel, au niveau économique, au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau spirituel, c'est la même règle. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça fait 5000 ans que les gens, ils essayent de trouver des définitions. Il y en a qui croient que c'est les Spartiates qui avaient raison. Il y en a qui croient que c'est les poètes qui avaient raison. Chacun, il essaie de trouver quelque chose. C'est l'équilibre entre les deux qui restera la vérité jusqu'à la fin. Tant que quelqu'un, il n'a pas décidé ça, tant qu'il n'a pas compris qu'il doit être un hyper-cerveau avec un hyper-cœur, il n'arrivera jamais. Impossible autrement. Et la preuve? La preuve, c'est le vélo. Rappelez l'exemple du vélo. J'ai souvent l'exemple du vélo. C'est très important, ça. Si vous retenez que ça, ça vaut le coup. Des fois, je vous donne des exemples simplés, mais ces exemples-là, ils vous servent de clé pour ouvrir des portes. Parce que c'est marqué dans le Zohar, « Kol ha'olam mashalim », le monde entier, ce ne sont que des exemples. Ça veut dire que le monde physique, il a été créé dans sa structure pour que tu comprennes la structure du monde spirituel. C'est comme le croquis du monde spirituel, c'est le monde physique. Vous comprenez? Donc, toi, tu veux faire du vélo. Eh bien, c'est très dur de faire du vélo droit. Droit, par exemple. Tu sais qu'en général, quand il trace une ligne droite sur une route, elle est droite, elle est droite. Eh bien, essaye de rester au milieu de la route et au milieu de la ligne droite. C'est très dur. En vélo. Hein. Pourquoi? C'est dur. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que regardez bien, pour avancer, il faut appuyer à droite et appuyer à gauche. Et quand tu appuies à droite, tu vas à droite. Et quand tu appuies à gauche, tu vas à gauche. Mais impossible d'avancer sans appuyer l'un successivement à droite et à gauche. Impossible d'avancer. Donc maintenant, il y a deux types de stabilité dans le monde. Il y a des gens qui ne bougent pas, ils sont stables. Des fossiles. Tu reviens 10 ans après, c'est la même. Et il y a des gens qui avancent. Et dans les gens qui avancent, ils ont une recherche de stabilité. Mais s'il n'y a pas de recherche de stabilité, automatiquement, c'est des extrémistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Ou à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, regardez bien, quand tu crées le mouvement et que tu appuies sur la pédale de droite, c'est le fait que tu récupères la force que tu as mis qui va te permettre de rester au milieu. Par la pédale de gauche. Et la pédale de gauche, elle est récupérée par la pédale de droite. Eh bien, la vie, c'est comme ça. Tu vas investir des sentiments, Chazak ou Baruch. Mais je t'en prie, emploie ta tête aussi. Parce que sinon, tu risques d'être déçu. Tu as appliqué ta tête. Mais il ne faut pas que ta tête, elle t'enferme dans des schémas, dans des principes qui t'écrasent et qui te détruisent. Humanise un petit peu ta tête avec ton cœur. Tu as remis du cœur, mais fais gaffe à la dose de cerveau. Tu as remis du cerveau, fais gaffe à la dose de cœur. C'est perpétuellement un travail. Il ne s'arrête jamais ce travail. Les gens qui disent, moi j'ai des principes, je sais les appliquer, j'ai pas de problème. Hachem, il va t'envoyer en pleine tronche l'inverse. En pleine tronche. J'adore les gens qui me disent, moi, j'ai tout compris.
Ouais.
En pleine tronche, tu vas te marier, ta femme, elle va être ta remise en cause. Comme ça. Pourtant, j'étais clair, je savais ce que je voulais. Tout avec tout le monde, ça marche qu'avec elle. Oui, parce qu'on veut te montrer, mon frère, que la vie, c'est une formation continue. Toi, tu t'arrêtes. Parce que le jour où tu seras net, tu seras mort. C'est le dernier jour. Comprenez ça ou non? En attendant, formation continue. Ah, tu t'es arrangé avec ta femme, mais il y a des choses que t'as pas voulu régler. T'as dit, nanana. Les gosses, ils arrivent. Regarde, ils arrivent. Comme ça. En pleine tronche. C'est pas moi qui les a fait, mais c'est pas vrai. C'est quoi ces horreurs? Deuxième exercice de remise en cause. Le travail. Troisième. Le relationnel. Quatrième. Regarde tes copains. Regarde tes copains. Ce qui se ressemble, ça semble. Regarde tes copains. T'as pas honte? Ça fait 4h30 que le mec, il est en train de te raconter son mal au ventre de la veille. Tu sens pas que tu pourrais élever le niveau un peu, non? C'est vrai que bon, c'est pas très, très... Moi, je sais, pendant les vacances, je travaillais à la poste. Le lendemain matin, il racontait ou la cuite, ou le foot, ou le mal au ventre. Pendant les vacances. Moi, je travaillais que les vacances. Imagine le type, il est rentré à 16 ans, il sort à 65. Imagine à la fin, qu'est-ce qu'il va faire pendant sa retraite? C'est comme ça. Si un homme, il n'est pas en lutte perpétuelle pour comprendre que la vie, c'est une série de diapos. Et dans chaque diapo, on te demande de rentrer dedans et de t'adapter et de faire un effort. Et qu'à chaque fois, il faut remettre les cartes sur la table. Et Baruch HaShem qu'on remet les cartes sur la table. Parce que de la même manière qu'il faut remettre les cartes sur la table pour être adapté au marché... De la même manière, il faut remettre les cartes sur la table pour être adapté à son couple au jour le jour, pour être adapté à ses enfants qui grandissent. Baruch HaShem, qu'on a le droit de remettre les cartes sur la table. Par exemple, quand on s'est planté, on est content qu'il y ait une nouvelle journée. On s'est planté, on a fait une grosse lourdeur. On est content qu'on dise, eh bien viens, on remet les cartes sur la table. Imagine l'autre, il dit, on ne remet pas les cartes. La donne, elle est faite, tu gardes tes cartes. C'est comme ça, Dieu. Tu sais pourquoi le matin, on finit Tilat Yadayim avec le Kelly? Pourquoi? Tous les matins, on fait des tilates, vous savez ou non? Faites pas semblant de ne pas savoir. Tous les matins, quand on se lève, on prend un keli et on se rince une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Je ne suis pas religieux. Pour être juif, ce n'est pas la peine d'être religieux. Rappelez-vous de ça. Pourquoi on fait ça? Parce que la nuit, une personne, en s'endormant, son âme, elle monte. Et quand l'âme, elle monte, il y a un minimum qui reste. Le sommeil, c'est un 60e de la mort. C'est marqué comme ça dans le Zohar. Tu dis, c'est comme ça. Donc, quand l'âme, elle s'en va, la personne, elle est morte à 59%. Donc, quand l'âme, elle revient, elle a rechargé des énergies en haut, elle regonfle le corps. C'est marqué là-bas, la personne, c'est Bria Hadasha, c'est une nouvelle personne. Par exemple, tu t'étonnes, tu t'endors crevé, tu te rêves, t'es en pleine forme, tu te réveilles. Tu t'es jamais demandé comment ça se fait? Vous savez, on dit le sommeil est réparateur. Mais pourquoi? Il n'y a aucun médecin au monde qui sait pourquoi le sommeil fait du bien. On ne sait pas. Mais c'est très simple. C'est l'âme qui porte le corps. L'âme, elle porte le corps. La nuit, elle régénère. Tu regonfles les batteries. Le matin, elle a la pêche. Tu dis, oh, l'âme, elle porte le corps. L'âme, elle porte le corps. Dis-moi, pourquoi une personne qui dort, elle est plus lourde qu'une personne qui est réveillée? Pourquoi une personne qui est évanouie, elle est deux fois plus lourde qu'une personne qui est réveillée? Et pourquoi une personne qui est morte, elle est trois fois plus lourde qu'une personne qui est réveillée? Parce qu'il n'y a plus l'âme qui la porte, mon frère. En sommeil, 1/60. Évanoui, encore moins. Mort, il n'y en a plus. C'est comme un ballon quand on enlève l'air comprimé. Eh bien, il s'étale. Il n'y a rien à faire. Alors, tu vois cette gestion-là, de cette énergie qu'on t'a donnée, dans la redistribution que tu vas faire dans le monde, ça s'appelle l'existence. Donc, les enfants de Aaron, Nadav, Avihu, ils avaient un besoin d'existence extraordinaire. Ils avaient atteint une perception d'Akadosh Baruch Hu qui était extraordinaire. Et ils ont compris qu'il fallait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'était ça le but. Hazak ou Baruch. Mais cet élan d'amour-là extraordinaire, malheureusement, il lui manquait un petit élément de crainte. Un petit niveau, Chas v'Shalom, on va pas dire qu'ils avaient pas la crainte d'Hachem. On parle pas des pauvres types. Oui. Mais seulement, c'est comme un ingénieur atomique qui a fait une erreur d'un micron. Mais une erreur d'un micron pour un ingénieur atomique s'appelle une micro-fissure. Et une micro-fissure s'appelle une micro-fuite. Et une micro-fuite s'appelle une irradiation à 2000%. Et voilà, Tchernobyl. Eh bien, ce qui s'est passé là-bas, c'est Tchernobyl. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une envie d'amour extraordinaire. Mais cette envie d'amour, oui, elle n'a pas été structurée. Il y a eu des éléments qui ont été faits au niveau des fautes, au niveau de la halakha. Il y a eu des éléments qui ont été faits au niveau de la kavana, parce qu'ils se sont trompés. Or, la kavana, c'est la structure de la personne. La kavana, c'est l'intention, c'est la pensée. Rappelez-vous de ça, même si ça met des années pour le comprendre. Il dit le Rabbi Tzadok HaKohen, Mekomo shel Adam zemarshavato. Là où il y a la pensée de quelqu'un, c'est ça sa place. C'est très dur ça, je vous le dis tout de suite, il y en a pour au moins 10 ans pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'un homme, il est là, il n'est pas là physiquement là où est son corps, il est là où est sa tête. Là où ta tête elle est, tu es. Pas là où est ton corps. Pourquoi la femme de Lot, elle est devenue en sel? Parce que quand elle a regardé, intellectuellement, elle s'est liée à eux. Et comme l'essence de la personne, c'est son essence, c'est son intellect. Donc, puisque dans sa tête, elle a fait un avec eux, et que son essence, il est redistribué à l'intérieur de son être, donc elle est devenue comme eux en selle. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'accrocher avec des gens tordus? Parce que quand on fait un avec eux au niveau de la tête, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir des pensées bidons? Parce que quand on fait un au niveau de la tête, on fait un au niveau de la personne. Rappelez-vous, le lieu de la personne, ça n'est pas son corps, c'est sa tête. Donc, puisque eux, ils ont fait une erreur au niveau de la tête, donc au niveau de l'intérieur, donc ils ont été punis au niveau de l'intérieur, et le feu, il les a brûlés à l'intérieur, pas à l'extérieur. Mais cette mort-là, en vérité, c'est qu'une capara pour le peuple d'Israël. Pour ça qu'à Yom Kippour, on lit la paracha de Harimot. Mais pourquoi on lit ça? Il dit le Zohar, pourquoi est-ce qu'on lit à Yom Kippour? Parce que la mort des tzadikim, c'est une capara, c'est une expiation pour le peuple d'Israël. Tu vas me dire, mais eux, ils ont fait une erreur. Alors, c'est là qu'il faut comprendre une chose extraordinaire. Mais pour ça, il faut beaucoup de recul. C'est que voyez tous les éléments qui s'inscrivent dans la vie, entre toi et l'autre, et Hachem, et le projet divin, et le projet personnel, et le projet humain, et le projet social. Voyez la combinaison de tous les projets. Même si au niveau personnel, dans un élan extraordinaire d'amour, ils ont fait une petite erreur qui les a tués sur place, cette mort-là, qui démarrait d'une volonté positive d'existence face à Akadosh Baruch Hu, elle a profité au peuple d'Israël en tant que capara. Parce qu'au fond, c'était un geste d'amour, mais qui n'était pas structuré. Qui avait un manque au niveau de la structure. Et puisque c'était un geste d'amour, c'est un geste d'existence. Et l'existence, c'est faire sortir la neshama de la personne. Et la neshama de Aaron, ouais, alors imagine ce que c'était. Alors la neshama de Nadav Avihu, qu'il dit le Zohar qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron, c'est normal que cette existence-là, elle va laisser une trace. Quelle trace elle va laisser? Elle va laisser une trace que jusqu'à la fin des temps, oui, on va lire la paracha de Yom Kippour pour la capara des Bnei Israël. Est-ce que c'est clair?